إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا مع قراءة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ووصلنا إلى باب حكم تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة. يتفضل أخي. نعم.
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.
نعم، بارك الله فيك أخي. تشاهد الترجمة؟ Donc il dit ici, Cheikh Islam, rahimahullah ta'ala, ce qu'il faut penser de celui qui donne à Ali, radiallahu anhu, la primauté dans le droit du califat, en priorité sur les trois autres califes. Il dit ici cette question, c'est-à-dire celle concernant Uthman et Ali, ne constitue pas, selon la plupart des gens de la sunna, un des principes dont le contradicteur mérite la qualification d'égaré. En revanche, celle qui induit l'appellation d'égaré est la question du califat, parce que les gens de la sunna croient que le califat, après le départ du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, revient à Abu Bakr d'abord, puis Omar, ensuite Uthman et enfin Ali. Celui qui conteste ou qui dénigre le califat de l'un de ceux-là est alors vraiment plus égaré que l'âme de sa famille.
Non, barakallahu fik.
Idhan qala Shaykhuna al-Fawzan hafizahu Allah ta'ala, أبدى الشيخ رحمه الله موازنة بين المسألتين، مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل، ومسألة تقديم علي على غيره في الخلافة. فعندنا مسألتان لا بد من التفريق بينهما. الأولى تقديم علي على عثمان في الفضل، والثانية تقديم علي على غيره في الخلافة. من حيث ما يترتب على ذلك التقديم من خطورة، فبين أن مسألة تفضيل علي على عثمان لا يضلل أو
نعم لا يضلل صاحبها أي لا يحكم بضلال من قال بها. لا نقول إنه ضال نظرا لوجود الخلاف فيها بين أهل السنة. وإن كان الراجح يقول الشيخ الفوزان إن كان الراجح تفضيل عثمان, هذا هو الراجح تفضيل عثمان رضي الله عنه, لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة هذا شيء آخر, أي يحكم بضلال من خالف فيها, من خالف في مسألة الخلافة يحكم عليه بضلال. فرأى تقديم علي في الخلافة على عثمان وعلى غيره من الخلفاء الذين سبقوه, أو قدم عليا على أبي بكر وعمر في الخليفة, هذا في ضلال. Donc il dit ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, que Cheikh l'Islam, rahimahullah, expose ici deux mas'alas, deux points importants qu'il a pesé et qu'il a comparé l'un à l'autre. Il dit il y a la première mas'ala qui est le sujet concernant le fait de faire, de préférer Ali sur Uthman au niveau du mérite, au niveau du fadl, le fait de dire et de croire que Ali il est meilleur que Uthman au niveau du mérite. Taïeb. Et la deuxième mas'ala, le deuxième point, il est différent. Écoutez bien, la deuxième mas'ala, c'est le fait de préférer Ali sur les autres sahaba, notamment Abu Bakr et Omar et Uthman, au niveau de al-khilafah, du califat, la gouvernance, la gouvernance, le pouvoir. Ça y est. Donc on a deux mas'alas ici, il faut faire attention. Et ils n'ont pas le même jugement. La première mas'ala, elle n'a pas le même jugement que la deuxième. C'est pour ça qu'il faut bien différencier les deux. Donc la première, le fait de préférer Ali et de dire qu'Ali est meilleur que Uthman. D'accord. Et ici, remarquez bien qu'on ne parle pas de khilafa ici. On parle juste de manière générale, le fait de dire que Ali est meilleur que Uthman. Il a plus de mérite, il a plus de qualité que Uthman. Et la deuxième mas'ala, par contre, elle est liée au khilafa, au califat. C'est-à-dire le fait de croire et de dire que Ali, il mérite plus le califat que Abu Bakr, que Uthman et que Omar. D'accord ? Non. Donc, concernant la première mas'ala, le fait de préférer Ali que Uthman et de dire qu'il a plus de mérite, ça c'est un sujet sur lequel on ne va pas dire à celui qui croit que Ali il est meilleur que Uthman qu'il est dans l'égarement. En aucun cas. En aucun cas on dira à celui qui croit ça qu'il est égaré. Pour quelle raison ? Car Ahl Sunnah, ils ont divergé sur ça. Ahl Sunnah wal Jama'a ont divergé. Certains, ils ont dit Ali, il est meilleur que Uthman. D'autres ont dit Uthman, il est meilleur que Ali. Taïeb. Et dans tous les cas, celui qui n'a pas pris l'avis que tu as pris toi, tu n'as pas le droit de lui dire que c'est un égaré. Parce que chacun a des textes et des preuves sur lesquelles ils vont s'appuyer et s'argumenter. Taïeb. Concernant maintenant, Naam, malgré ça, il dit le Cheikh Al-Fawzan que la parole la plus correcte, la plus juste, c'est que Uthman est meilleur que Ali. C'est que Uthman est meilleur que Ali. Ça, c'est le qawl al-rajih, inshallah ta'ala, prépondérant. Naam. Mais par contre, concernant la mas'ala du califat, al-khilafa. Dans cette mas'ala, celui qui dit que Ali, il mérite plus le khilafa que Abu Bakr et que Omar et que Uthman, celui-là c'est un égaré. D'accord ? Celui qui dit ça, il dit que Abu Bakr, Omar et Uthman, ils ont usurpé, ils ont volé, ils ont pris injustement le pouvoir et la gouvernance, alors que c'est Ali qui devait le prendre, et pas ces trois-là. D'accord ? Celui qui dit ça, lui, c'est un égaré. Lui, on dit que c'est un égaré. Taïeb ? Non. Hein, قال الشيخ هذا هو اضل من حمار اهله شديد عبر المؤلف رحمه الله تعالى بهذا التعبير هو اضل من حمار اهله لانه في الحقيقه من تعبيرات الامام احمد رحمه الله تعالى قال الشيخ ابن عثيمين لا شك لا شك أن هذا هو أضل من حمار أهله وإنما ذكر الحمار لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق وأنه أقل الحيوانات فهما حمار طيب فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء أو ترتيبه فقد طعن في الصحابة جميعا فقد طعن في الصحابة جميعا فيجب علينا أن نعتقد أن أبا بكر وعمر وعثمان لهم أحقية الخلافة من غيرهم Il dit ici l'auteur rahimahullah ta'ala que celui qui dit que Ali il mérite plus le califat que Abu Bakr, que Uthman et que Omar, il est plus égaré que l'âne de sa famille. Taïeb, donc c'est une expression qui est très dure à son encontre, mais c'est une expression qui est utilisée par de nombreux savants de la sunna, notamment quand il parle des mubtadi'a, des innovateurs. Il n'y a pas de doute, dit le Cheikh Al-Fawzan ou Cheikh Al-Thaymi rahimahullah ta'ala, que celui qui dit ça, il est plus égaré que l'âne de sa famille. Pourquoi l'âne? Parce que l'âne, c'est l'animal le plus bête. De manière absolue, l'âne, c'est l'animal le plus bête, le plus lent au niveau de la compréhension. Au niveau de l'intelligence, c'est l'animal le plus lent. Ça y est. Donc celui qui dénigre et qui dénigre ou qui insulte le fait que certains parmi Abu Bakr ou Omar ou Uthman ne mériteraient pas le califat, hein, ou qu'ils disent que l'ordre il n'est pas bon. Normalement, c'est Ali qui devait prendre califat en premier et pas Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman. Eh bien, celui-là, il aura en vérité dénigré tous les Sahaba. Tous les Sahaba, parce que qui c'est qui ont choisi ces gens-là? Qui est-ce qui ont choisi Abu Bakr? Qui est-ce qui ont choisi Omar? Qui est-ce qui ont choisi Uthman? Si ce n'est pas les Sahaba, c'est qui? Subhanallah. Taïeb? Donc il est obligatoire pour nous de croire que le calife, le premier calife qui mérite de l'être après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ordre, c'est Abu Bakr. Ensuite, Omar. Ensuite, Uthman. Ensuite, Ali. Taïb, dans cet ordre-là. وهكذا لكن الترتيب في أحقية الخلافة على ما ذكرنا لا يعني أن من فضل غيره فإنه يفضله في كل شيء. لا يعني هذا، بل قد يكون للمفضول فضيلة لم يشاركها فيها أو لم يشاركه فيها أحد. وتميز أحد هؤلاء الأربعة بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة، فيجب التفريق بين الإطلاق والتقييد. Il faut savoir que le fait d'avoir choisi cet ordre-là, comme on a vu, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ne veut pas dire que c'est pas parce que Abu Bakr mérite plus que Omar et que les autres qu'il est meilleur que eux de manière totale et absolue. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas parce qu'on dit que Uthman il mérite plus le califat que Ali que Uthman il est meilleur que Ali dans tous les cas ou dans tous les dans toutes ses qualités, les qualités de l'homme qu'il peut posséder. Non, au contraire, il se peut que par exemple Omar possède certaines qualités que n'a pas Abu Bakr. Il se peut que Ali possède des qualités que n'ont pas les autres, ni Uthman ni Omar. D'accord ? Donc c'est pas parce que certains méritent plus que l'autre le khilafa qu'il est meilleur que tous les autres de manière totale et absolue. Ça ne veut pas dire ça. Donc ne pas tomber dans l'égarement des rawafid, مثلاً الروافض. الذين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة، لأنهم ظلموا علي بن أبي طالب حيث اغتسبوا الخلافة منه. Attention de ne pas tomber dans l'égarement des rawafid, rafida, qui prétendent que Abu Bakr et Omar et Uthman ainsi que tous les sahaba de manière générale sont injustes. Ils disent qu'ils sont injustes. Ils les insultent. Et certains même les rendent kuffar. Taïb. Et ils prétendent qu'ils ont été injustes envers Ali et qu'ils ont usurpé, qu'ils ont volé, ils ont pris de force le califat alors qu'ils ne le méritaient pas. Qu'Allah nous en préserve. Non. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على بيعته ثم الخليفة من بعد أبي بكر عمر بن الخطاب الفاروق لفضله وسابقته وعهد أبي بكر إليه واتفاق الأمة عليه بعد أبي بكر ثم الخليفة بعد عمر من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له لتقديم أهل الشورى له واتفاق الأمة عليه ثم بعد عثمان الخليفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباد ابن سارية رضي الله عنه.
Change.
Bismillah.
طيب. إذن في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء، يعني من هؤلاء الأربعة المذكورين، فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا برهان، وذلك كالرافضة الذين يزعمون أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالحاصل في مسألة تقديم علي على غيره من الخلفاء الثلاثة، أولا من قدمه في الخلافة فهو ضال بالاتفاق، اسمعوا جيدا، أولا نأخذ من هذه المسألة أن من قدم من عليا في الخلافة فهو ضال بالاتفاق، ثانيا من قدم عليا في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضا، وأخيرا من قدم عليا على عثمان في الفضيلة فلا يضلل، هذا لا يضلل وإن كان هذا خلاف الراجح. طيب، دونك il dit ici les gens de la sunna et du groupe sur la vérité croient que le calife, comme on l'a dit tout à l'heure, légitime après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr As-Siddiq. Hein? Ça veut dire quoi les frères As-Siddiq? Pourquoi on l'appelle Abu Bakr As-Siddiq? Non? Il y a une différence entre véridique et confirmer le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une différence. Il se peut que la personne confirme le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit moi je crois au message du prophète, mais qu'elle mente ou qu'elle ne soit pas véridique. Hein?
Non.
Croyant. Là, c'est plus que croyant. Hein? Mokhtar, hein? Pas seulement pourquoi l'Isra wal Mi'raj yani là. Là de manière générale. Naqul, hein?
La ishk abadan.
Non, ahsan. Hein? نعم
قال اذا قاله فهو الحق.
نعم يلقب ابو بكر بالصديق لانه بادر دائما بادر الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ولازم الصدق وهو دائما مع الصدق اينما كان. Donc on appelle le Siddiq, Abu Bakr, il traduit souvent par le véridique, mais ce n'est pas assez précis, c'est pas assez précis. Un Siddiq, c'est-à-dire celui qui est toujours le premier à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, à la moindre information qui sort de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yusaddiq, il y croit ferme, sans avoir ne serait-ce que une seconde ou la 1/100 de seconde de doute. Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient d'Allah? Est-ce que ça... Non, il ne se pose pas la question. Ça vient de lui, khalas. C'est la vérité. C'est la vérité. Le prophète, il m'en parle. Et tout vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comprenez? Hada wa siddiq. Et le fait aussi qu'il soit toujours avec la vérité. Où qu'elle soit, il est avec la vérité. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu wa arda. Donc, le calife le plus légitime après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, de par son mérite, hein, et de par ses qualités. Et aussi parce que le prophète lui-même, c'est le prophète lui-même qui l'a avancé sur les autres, sur tous les sahaba, radiallahu anhum, et aussi par rapport au consensus, l'unanimité des compagnons à son sujet, sur le fait que c'est lui qui devait être le premier calife et personne d'autre. Après lui, c'est qui? Omar. Après Abu Bakr, c'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc, de par son mérite, de par le fait qu'il ait embrassé l'islam avant les autres, etc., etc., et aussi par rapport à Abu Bakr. Donc, c'est Abu Bakr lui-même, avant de mourir, qui l'a conseillé et qui a dit aux autres, c'est lui, d'accord, c'est Omar qui doit me succéder. Et également le consensus et l'unanimité de la Ummah sur le fait que Omar doit être le deuxième calife. Puis après Omar, Uthman ibn Affan, radiallahu anhum, notamment par rapport au fait que Ahlul Shura, donc les sages, pourrait traduire par le conseil consultatif à l'époque, c'est eux qui l'ont élu et qui l'ont choisi, pour être le calife après Omar radiallahu anhum. Et également aussi l'unanimité de la Umma. Et après Uthman, on a enfin Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, de par son mérite et aussi de par l'unanimité des gens de son époque. C'était unanime pour dire que après Uthman, c'est Ali ibn Abi Talib. Donc ces quatre califes, ils ont été mentionnés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes Rashidin, c'est-à-dire ceux qui connaissent la vérité et qui suivent la vérité. Rashidun alladhina arafu al-haq wa taba'u. C'est ça Rashid. Quelqu'un qui est Rashid, c'est quelqu'un qui sait la vérité et qui suit la vérité. Donc mes califes Rashidin al-Mahdiyin, bien guidés après moi. Donc c'est qui ces califes là? C'est ces quatre là. C'est les quatre qu'on a mentionnés. Tamassaku biha. Vous connaissez le hadith. Tamassaku biha. Accrochez-vous, cramponnez-vous à elle. Donc il n'a pas dit tamassaku bihima. Il a dit biha. Et de là on comprend, comme disent les ulama, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna de ses califes al-Rashidin al-Mahdiyin est la même sunna. C'est la même. Parce qu'il a dit juste après, wa tamassaku biha. Bil mufrad. D'ailleurs, non. C'est pour ça qu'il dit le Cheikh, rahimahullah ta'ala, celui qui dénigre la gouvernance de l'un d'entre eux, c'est-à-dire de l'un de ces quatre-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il se peut qu'il y ait des divergences après eux. Après Ali, il se peut qu'il y ait des divergences, d'accord? Nous, on parle que des quatre premiers. Sur les quatre premiers, il n'y a pas de divergence au niveau du califat. D'accord? Donc celui qui dénigre ça et qui refuse, il dit le Cheikh, il est plus égaré que l'âne de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a contredit les textes, tout simplement, et il a contredit aussi l'unanimité des sahaba, radiallahu anhum, et des tabi'in, sans preuve et sans argumentation, comme l'ont fait al-Rafidha, qui ont prétendu que al-Khilafa, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devait aller à Ali ibn Abi Talib et non à Abu Bakr, Omar, Uthman. Donc en conclusion ici, au niveau de la mas'ala concernant al-khilafa, d'accord? Donc on a vu plusieurs choses. Il dit la première chose, notez bien, inshallah ta'ala, celui qui préfère Ali ibn Abi Talib, et qu'il dit que Ali, il mérite plus le califat que les autres. Abu Bakr, Omar et Uthman, lui, c'est un égaré. Al-Dhal, bil-ittifaq, à l'unanimité des savants, celui qui dit ça, c'est un égaré. Voyez ? Deuxième point, celui qui préfère Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, et qui dit qu'il a plus de mérite que Abu Bakr et que Omar, eh bien celui-là aussi, c'est un égaré. Il dit que Ali est meilleur que Abu Bakr, il est meilleur que Omar. Ça, c'est un égaré aussi. La chaque. Et enfin, troisième point, celui qui préfère Ali sur Uthman seulement, et qui dit que Ali, il est meilleur que Uthman. Il ne parle pas du califat. Il ne parle pas du califat. Il dit c'est Uthman qui mérite le califat, plus que Ali, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, Ali est meilleur que Uthman. Il a plus de qualité, il a plus de... Son rang, il est plus élevé que celui de Ali. De Uthman, pardon. Eh bien, lui, on ne dit pas que c'est un égaré. Hadala yudallal. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que Ahl Sunnah ont divergé. Ahl Sunnah wa Jama'a ont divergé. Donc, tu ne vas pas rendre égaré celui qui a pris un avis que tu n'as pas pris. Comme font beaucoup aujourd'hui, quand tu ne prends pas l'avis que tu as pris, ça y est, ils te font le hajr. Ou alors ils mettent en garde sur toi. Des fois même sur des questions de fiqh. Sur des questions de fiqh. Et vous savez tous que dans le fiqh, il y a énormément de divergences. Ça ne veut pas dire qu'on suit les passions. Chacun doit suivre les preuves, les arguments. Il doit faire un effort de réflexion. Mais ce n'est pas parce que ton frère il a pris l'avis qui n'est pas le tien que tu dois lui tourner le dos, subhanallah. Taïm. Donc celui qui dit ça, eh bien, on ne dit pas qu'il est égaré, même si, dit les cheikhs, que l'avis le plus fort et le plus correct, c'est que Uthman est meilleur que Ali. Que ce soit au niveau du califat, il mérite plus, ou au niveau de général, hein, des qualités intrinsèques de la personne, eh bien, c'est Uthman qui est meilleur que Ali, dans tous les cas. Non. Khana na'im. مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل سنة والجماعة
ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم.
نعم بارك الله فيك. طيب أخي
il dit, cher Islam, rahimahullah, la haute position des membres de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, auprès des gens de la sunna et du groupe. Ils aiment les membres de la famille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra c'est qui, les membres de sa famille, Ahl Bayt. Ils les prennent pour alliés, c'est-à-dire ils les aiment, et exécute dans le rapport avec eux la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il avait dit le jour de Ghadir Khummin,
Hein? Tu as quoi sur ton livre, Naïm? Ghadirin ou Ghadiri?
Ghadirin.
Ghadiri. Ghadiri, Khummin. Idafa. Idafa, Ghadiri, Khummin. C'est ça, Ghadirin. Il dit, je vous adjure, en vous rappelant Allah, d'user d'égard envers les membres de ma famille. Il a aussi dit à Al-Abbas, son oncle, alors qu'il s'était plaint à lui que certains Quraïchites se montraient durs envers les Banu Hashim. Il a donc dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne vous aimeront pas par égard pour Allah et la parenté que j'ai avec vous. Il a aussi dit, Allah a élu. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a élu, il a choisi les descendants d'Ismaïl. Et de ces derniers, il a choisi Kinana. Et de Kinana, des descendants de Kinana, il a choisi Quraysh. Et des descendants de Quraysh, il a choisi Banu Hashim, les enfants de Hashim. Et Allah, il m'a choisi d'entre les Banu Hashim. Nah. فبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب مكانة أهل البيت عند أهل سنة والجماعة وأنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت من هم؟ أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم آل النبي الذين حرمت عليهم الصدقة آل النبي الذين حرمت عليهم الصدقة وهم آل علي آل جعفر آل عقيل آل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب وكذلك أزواج النبي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من أهل بيته كما قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية. Donc, ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, il expose la position, le rang des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ceux qu'on appelle communément Ahlul Bayt. Quand tu entends Ahlul Bayt, tu parles des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelle est leur valeur chez les gens de la sunna et du groupe sur la vérité? Il dit, Cheikh l'Islam, il les aime. Il les aime, Ahlul Bayt, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui ils sont exactement? Qui sont-ils exactement? Il dit, il détaille ici, Cheikh Al-Fawzan, il dit donc, ce sont la famille, les proches parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qui la sadaqa, elle est interdite. Donc ça, c'est un hukm shari'i. Tous ceux qui font partie de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas le droit de prendre la sadaqa. Et quand on parle de sadaqa ici, on parle de zakat, al-wajiba, al-mafrouda. Les ulama, ils disent, on parle de la zakat obligatoire. Ils n'ont pas le droit de la prendre. Ça veut dire, même s'ils sont dans le besoin, ils ne prennent pas la zakat. Taïb. Par contre, ils peuvent prendre la sadaqa. Hein? La sadaqa, c'est-à-dire l'aumône facultative. Tu as le droit de leur faire des aumônes facultatives. Mais la zakat obligatoire, tu n'as pas le droit de. Ils n'ont pas le droit de la prendre. D'accord? Donc, il dit parmi sa famille, il y a la famille de Ali, la famille de Ja'far, la famille de Aqil, la famille de l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que les descendants de Al-Harith, le fils d'Abd al-Muttalib. D'accord? Et il y a aussi les épouses. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie aussi de Al-Baytihi, ainsi que ses filles ou ses enfants de manière générale. Ses enfants font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Allah Jalla wa Ala dans Sourate Al-Ahzab, lorsqu'il s'adresse aux épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Il dit Allah Jalla wa Ala ne veut que vous débarrasser de la souillure. Ahl al-bayt, aux gens de la maison. Aux gens de la maison. Donc c'est qui cela? C'est les femmes, les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Donc pour résumer de manière concise, Ahlul Bayt al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, tu dis Azwajo, ses épouses. D'accord? Les épouses. Donc toutes les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elles sont incluses ou incluses dans cette appellation-là qui est Ahlul Bayt al-Rasul. Deuxièmement, Dhurriyato, ses enfants. Donc tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie intégrante de Ahlul Bayt. Troisièmement, Banu Hashim, les descendants de Hashim. D'accord? C'est qui Hashim pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le? L'arrière-grand-père. Abdullah, son père c'est Abdullah, son grand-père c'est Abdel Muttalib, et son arrière-grand-père c'est Hashim. D'accord? Donc tous les descendants de Hashim, ils font partie de Ahlul Bayt. Et il y en a aussi Banu al-Muttalib. D'accord? Quand on regarde les preuves et les textes, on voit que Banu al-Muttalib font aussi partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahlul Bayt. À ne pas confondre avec Abdel Muttalib. Abdel Muttalib, c'est son grand-père. Al-Muttalib, c'est qui? Hein?
Son oncle.
C'est son oncle. C'est son arrière-oncle. C'est son arrière-oncle. Al-Muttalib, c'est l'oncle de Abd al-Muttalib. C'est le frère de Hashim. C'est le frère de Hashim. D'accord? Al-Muttalib, c'est le frère de Hashim. C'est pour ça qu'on a appelé son neveu, non? Son neveu, on l'a appelé Abd al-Muttalib. Pas parce qu'il adorait Abd al-Muttalib. Qui connaît l'histoire? Vous connaissez pas l'histoire? Vous connaissez pas? Hein? Naam. Yani safara ma'a ammi. Abd al-Muttalib kana yusafir ma'a ammihi al-Muttalib. Wa 'inda ruju'ihima ra'ahu an-nas. ورأوه أسود لأنه كان في السفر فرأه أسود فظنوا أنه عبد لعبد المطلب أو عبد للمطلب عفوا طيب en fait c'est un jour il a voyagé avec son oncle avec son oncle المطلب et à l'époque quand il revenait de voyage ils étaient sales ils étaient un peu noirs etc bronzés يعني la peau mate avec le soleil et tout. Et ils ont cru, quand ils l'ont vu, ils ont cru que c'était l'esclave de Al-Muttalib. C'est pour ça que depuis ce jour-là, on l'appelle Abd al-Muttalib, ça vient de là. L'esclave de Al-Muttalib. Mais Al-Muttalib, en fait, c'est son oncle. Et c'est l'arrière-oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc les descendants de Al-Muttalib font aussi partie de Ahlul Bayt. Et on a aussi Mawalihim. Notez bien aussi Mawalihim. C'est qui le Mawali? C'est les esclaves affranchis. Donc les esclaves affranchis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les épouses, par les enfants, par Banu Hashim, par Banu al-Muttalib, font aussi partie de Ahlul Bayt al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mawali. Non. Voilà. فأهل سنة والجماعة يحبونهم ويحترمونهم ويكرمونهم لأن ذلك من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه ولأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فجاءت نصوص من السنة بذلك منها ما ذكره الشيخ وذلك إذا كانوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه. أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز محبته لا تجوز محبته ولو كان من أهل البيت ولو كان من أهل البيت. إذن نحن نحبهم أهل البيت لقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم بالله ولإيمانهم بالله. فإن كفروا هل نحبهم؟ لا. إن كفروا فإننا لا نحبهم ولو كانوا من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو لهب من أقاربه عمه أبو لهب، فهل نحبه؟ هل نحن نحب أبا لهب؟ لا، لا يجوز، والله لا يجوز أن نحبه، بل يجب علينا أن نكرهه لكفره ولإيذائه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو طالب هل نحبه؟ لا، والله يجب علينا أن نكرهه لكفره. لكن هل نحب أفعاله؟ هل نحب أفعال أبي طالب؟ نعم، نحب أفعاله التي أسداها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الحماية والذب عنه، ولكن هو لا. الله المستعان. Donc les gens de la Sunna, ils aiment les proches parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit les aimer, on doit les respecter, on doit les honorer, parce que cela fait partie du respect et de l'honorification du messager sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala et son messager l'ont ordonné. Qu'est-ce qu'il dit Allah jalla wa ala? قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. Je ne vous demande aucune récompense, aucune rémunération, hein, par rapport à mon appel à l'islam. Je ne vous demande rien, si ce n'est al-mawaddata fil qurba, si ce n'est l'amour par rapport à nos liens de parenté, ce n'est le fait que vous ne rompiez pas les liens familiaux que j'ai avec vous. Voyez, au contraire, maintenez-les avec moi, maintenez-les. Comme cela est venu dans les textes également de As-Sunna. Donc ça à condition, bien sûr, le fait qu'on doive les aimer, les respecter, les honorer, à condition qu'ils suivent la Sunna et qu'ils sont droits sur le chemin de la vérité, le chemin de la religion, de l'islam, comme l'ont été les salafs parmi les descendants de l'Abbas, ou les enfants de Ali, etc., etc. Mais celui qui s'est opposé à la sunna et qui n'est pas droit sur le chemin de la vérité, est-ce qu'on doit les aimer? Non. On ne les aime pas, même s'ils font partie des proches parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc la base, on les aime, alhamdulillah. On les aime pour deux choses. Premièrement, parce qu'ils croient en Allah. Ils croient en Allah jalla wa ala. Ça, c'est la plus importante des choses. Et ils croient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième chose, ils ont quelque chose en plus par rapport que les autres, par rapport aux autres, c'est que ils font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils méritent doublement notre amour et notre respect. Par contre, s'ils ne croient pas, est-ce qu'on peut les aimer? Là. On ne pourra pas les aimer, même s'ils font partie de la famille du prophète. Même s'ils sont très très proches de lui au niveau du sang, hein, et du lien familial. On ne les aime pas. Abu Lahab, l'exemple qu'on a pris, Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète. Et malgré ça, est-ce qu'on a le droit de l'aimer, Abu Lahab? Abu Lahab? Au contraire, on est obligé de les détester. Parce qu'il est mort sur le kufr. Et parce qu'il est mort en ayant fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit le détester. Abu Talib, est-ce qu'on l'aime ou on le déteste, Abu Talib? Hein? Vous doutez ou la timidité? Hein?
Du coup, on devait le détester, mais les actes qu'il a fait envers le prophète Ali sallallahu
alayhi wa sallam. Non, mais Hassan. Tu as compris l'arabe, toi, c'est bon. Allez. Non, donc lui, on doit le détester. Parce qu'il est mort sur le coup. Mais ce qu'il a fait, quand même, en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a aidé, il a défendu, il a protégé. Donc ses œuvres, ces œuvres-là, on les aime, bien sûr. Il a fait des bonnes actions. Parce qu'il a protégé notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a défendu. Mais la personne, elle, on la déteste. Parce qu'elle a choisi le kufr. Elle a choisi le kufr, même sur son lit de mort. Alors que le prophète, il était à côté et qu'il a appelé le tawhid jusqu'à la fin de sa vie, il a refusé. Il a refusé parce qu'il a préféré mourir sur la religion de ses ancêtres. Ça y est ? Et pour ne pas perdre la face devant les notables de sa tribu et de son clan. نعوذ بالله نعم est-ce qu'ils existent encore aujourd'hui Ahl al-Bayt il y en a encore aujourd'hui Ahl al-Bayt hein نعم bien sûr qu'il y en a encore aujourd'hui ça va d'ici ils ont la preuve ils ramènent les papiers et tout ce qu'il faut alhamdulillah ils méritent jusqu'à aujourd'hui ces gens-là qui existent encore aujourd'hui qui font partie des descendants de Al-Muttalib ou Bani Hashim ou là. Hein? Il mérite notre amour et notre soutien, notre respect plus que les autres. À condition, encore une fois, qu'ils suivent la sunna. Ils suivent la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.
C'est ce
qu'on
appelle
les
shurafa, c'est ça?
Je ne connais pas ce terme. Allahu alam. Non. Alhamdulillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
وقوله رحمه الله ويتولونهم أي يحبونهم من الولاية بفتح الواو الولاية لا الولاية نقول الولاية أي المحبة الموالاة وهي المحبة قوله رحمه الله ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعملون بها ويطبقونها حيث قال يوم غدير خم الغدير هنا هو مجمع السيل مجمع السيل الماء الكثير الجاري وخم قيل اسم رجل نسب الغادر إليه وقيل هو الغيظة والغيظة الشجر المرتف نسب هذا الغدير إليها لأنه واقع فيها وهذا الغدير كان في طريق المدينة مر به النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من حجة الوداع وخطب فيه فكان من خطبته ما ذكره الشيخ رحمه الله أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أي أذكركم ما أمر الله به في حق أهل بيتي من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم Puis il dit l'auteur, Cheikh Al-Islam, rahimahullah, et il les aime. D'accord ? Donc ici, Al-Muwalat, c'est l'amour. D'accord ? Donc on peut dire également Al-Walaya, l'alliance. Al-Walaya. Mais ce n'est pas n'importe quelle alliance, c'est une alliance accompagnée d'amour, un soutien et un amour. C'est comme Al-Muwalat. Le terme Al-Muwalat en arabe, c'est ça, c'est le soutien en nusra, mais c'est aussi al-mahabba. Une aide, un soutien accompagné de mahabba, d'amour. Taïeb, et c'est pas al-wilaya. Al-wilaya, c'est autre chose. C'est al-sultan. Al-sultan, on dit al-wilaya. D'accord ? Mais là, on dit al-walaya, bi fath al-waw. Puis il dit, et il préserve vis-à-vis de eux la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire qu'ils mettent en application la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de sa famille taïeb vu que il dit le cheikh qu'il a dit un nabi sallallahu alayhi wa sallam le jour de ghadir et khum donc ghadir c'est quoi c'est une genre de rivière, hein? C'est de l'eau, une grande quantité d'eau, un endroit où il y avait une grande quantité d'eau, d'accord, qui coule. Et cet endroit-là, on l'appelait Ghadir Khum. Certains disent que Khum, c'était le nom d'une personne, d'accord, et du coup, on a affilié cet endroit-là à cette personne-là. Il y en a la rivière de Khum, d'accord. D'autres disent c'est par rapport à un arbre, d'accord, là-bas, un arbre touffu, très dense, avec beaucoup de feuilles, et cet endroit, ce ruisseau, il passait par cet arbre-là. Et c'est là que, donc, cet endroit-là qui se trouve sur le chemin de Al-Medina, d'accord. Et le prophète, il est passé par là, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est revenu du pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada. En quelle année, les frères ? Abd al-Wahhab. Hajjat al-Wada. En quelle année ? Hein ? La. Naam. Al-Ashr. Al-Am al-Ashr. La dixième année. Thamine, c'est. Fath Mekka. Fath Mekka, c'est la huitième année. Mais Hajjatul Wada', le pèlerinage, le dernier pèlerinage, le premier et le dernier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est déroulé la dixième année. D'accord ? Donc c'est là qu'il a fait, ou qu'il a dit cette parole-là, quand il est revenu donc de Mekka, qu'il est retourné à Médina après son pèlerinage, il s'est arrêté à cet endroit-là et il a fait ce discours-là et il a dit: je vous rappelle ce que Allah Jalla wa Ala vous a ordonné à l'égard de ma famille. Il leur a fait un rappel. C'est-à-dire, je vous rappelle, souvenez-vous de ce qu'Allah Jalla wa Ala vous a ordonné et vous a dit par rapport aux droits de ma famille. Ahlu Bayti, les gens de ma famille, par rapport au respect que vous devez avoir pour eux, par rapport à l'honneur que vous devez leur faire et le respect de leurs droits. Non. C'est clair, les frères? الحمد لله نكتفي بهذا بإذن الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا بما أو ينفعنا بما علمنا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء أئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب والآل والتابعين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم. Mm-hmm.